Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni éthique ni responsable, le podcast qui parle des expériences scientifiques et sociales qui sont au mieux cocasses, au pire dégueulasses, et des fois les deux. Est-ce que vous mangeriez du caca? Un étron, de la merde, un bronze, un coprolite, une fiente, des sels, une bouse, de la chure, des déjections, une grosse commission, une crotte, une belle pêche, une colombine, un crottin... De la matière fécale, quoi. Je pense que je les ai tous faits. Bon, bah non, on n'en mangerait pas, c'est dégueulasse. Bon, sauf si on est scatophile, voire même scatophage. Après tout, qui suis-je pour juger de vos fantasmes sexuels? Ça reste dégueulasse quand même. Bref, non, la plupart du temps, on trouve ça dégoûtant. Mais est-ce que vous mangeriez de la bonne nourriture? Genre du chocolat par exemple, qui en tout point, visuellement, a l'apparence d'une belle merde bien moulée. C'est du chocolat, hein? Je vois que je commence à vous diviser. C'est faux, c'est un podcast, je ne vous vois pas, réfléchissez un peu. Parmi nous, il y en a forcément un certain nombre qui, à la vue du caca, même en sachant qu'il s'agit de nourriture parfaitement saine, seraient tout de même dégoûtés à l'idée de devoir le manger. Pourquoi? Et jusqu'à quel point? Au moins une autre personne dans le monde s'est posé la question. Laissez-moi vous parler de Paul Rosin. One man crazy. Three very sane spectators. Paul Rosin, né en 1936, est professeur de psychologie à l'université de Pennsylvanie. Il est considéré comme le spécialiste du dégoût. Avouez que c'est original. Son travail se concentre sur les déterminants psychologiques, culturels et biologiques des choix alimentaires. Vous commencez à voir où je veux en venir. Ses intérêts d'enseignement et de recherche comprennent l'acquisition des goûts et des aversions pour les aliments, la nature et le développement de la croyance magique en la contagion, l'évolution culturelle du dégoût, l'ambivalence envers les aliments d'origine animale, la conception profane du risque d'infection et des effets toxiques des aliments, l'interaction des valeurs morales et les facteurs de santé dans les préoccupations concernant les risques, la relation entre les désirs des gens d'avoir des désirs et leurs désirs réels, oui, il est alambiqué celui-là, l'acquisition de la culture, la nature de la cuisine et l'évolution culturelle et les réponses psychologiques à l'eau recyclée. Vaste sujet que la nourriture, donc. Et vu que la nourriture et le caca sont deux de mes sujets favoris, je suis joie! Prenez vos fourchettes, c'est parti! Dans cette étude, Rosin soutient que les principes de la magie sympathique, considérés comme une caractéristique de nombreux systèmes de croyances et rituels primitifs, sont également opérationnels dans certains aspects de la vie quotidienne dans la culture occidentale moderne. Et là, il faut que je vous explique ce qu'est la magie sympathique. Selon Fraser, il existe plusieurs types de magie. La magie imitative, régie par le principe de similarité, qui consiste par exemple à planter des épines dans une poupée ressemblant à un ennemi pour lui porter atteinte. La magie contagieuse, régie par le principe de contact, qui consiste à prendre une partie du corps d'un ennemi, comme ses ongles ou ses cheveux, pour que le traitement infligé à la partie soit ressenti par tout le corps de son possesseur. Et Frazia décrit ces magies comme des mauvaises associations d'idées. On prête un lien entre la poupée vaudou et le mal supposément infligé à la victime, alors que scientifiquement, c'est du bullshit. Il qualifie donc de magie sympathique un lien entre des choses qui n'existent pas réellement. Le phénomène du dégoût offre une occasion spéciale d'étudier les lois de la magie sympathique, car les stimuli dégoûtants produisent des effets puissants qui sont en accord avec ces lois. C'est-à-dire que nous sommes dégoûtés par des choses qui, factuellement, ne le sont pas. De plus, ces effets sont faciles à produire en laboratoire dans des conditions écologiquement valables mais contrôlées. Nous définissons le dégoût comme une répulsion à la perspective de l'incorporation orale d'une substance offensante. Les objets de dégoût varient d'une culture à l'autre, mais incluent universellement les matières fécales et, dans la plupart des cultures, d'autres produits corporels également. Ils comprennent également la viande de la plupart des espèces animales, par exemple dans notre culture les insectes et les vers, et certaines parties, par exemple les yeux, de certaines espèces comestibles. Une caractéristique frappante des substances dégoûtantes est qu'elles peuvent rendre un aliment parfaitement bon, immangeable par un bref contact, même s'il n'y a aucune trace détectable de l'élément offensant. L'idée du contact est suffisante. Ils ont appelé ça le principe de contamination. Autant que nous sachions, cet effet est universel chez les adultes. Dans cette étude, Rosin examine le fonctionnement des deux lois de la magie sympathique chez les adultes américains, en utilisant à la fois des mesures en laboratoire et des réponses à des questionnaires. Il inclut les réponses aux stimuli dégoûtants, aux stimuli dangereux et aux situations interpersonnelles. Son but est de découvrir si l'ensemble des phénomènes qui ont donné lieu à la formulation des lois de la magie sympathique sont présents dans la culture américaine. En cas de résultat positif, une prochaine étape consiste à déterminer dans quelle mesure ces lois de la magie sont un moyen efficace et économique de rendre compte des phénomènes. Les sujets étaient composés de 50 personnes, environ la moitié d'étudiants de la communauté de l'Université de Pennsylvanie. Il y avait 17 hommes et 33 femmes, dont l'âge variait de 17 à 50 ans. Ils ont été recrutés principalement à partir de publicités pour des études sur les préférences alimentaires. L'étude s'est déroulée dans une salle de laboratoire. On a pris soin de donner à la pièce et à l'expérimentateur une apparence propre. Tous les verres, assiettes et ustensiles utilisés étaient jetables, ont été visiblement sortis de leur emballage commercial d'origine au début de chaque essai et ont été jetés rapidement après utilisation. Le sujet était assis à une table recouverte d'une nappe au centre de la pièce. L'expérimentateur était assis à la table à un angle de 90 degrés par rapport au sujet. L'étude comprenait deux parties. La première partie était in vivo, avec des sujets participant à des évaluations ou à des activités avec des stimuli appropriés présents. Dans la deuxième partie, ils ont rempli un questionnaire. La première partie a duré environ 40 minutes, la seconde environ 15 minutes. La première partie consistait en une série de mini-études toujours présentées dans le même ordre. Contamination cafard, conditionnement cafard, lancer de fléchettes, étiquette au cyanure et imitation d'excréments et de vomi de chien, mais on y reviendra plus tard. La même échelle d'évaluation a été utilisée pour toutes les études de la première partie. L'échelle était une ligne de 200 mm de long, étiquetée aversion extrême à l'extrémité gauche et j'aime extrêmement à l'extrémité droite. Il n'y avait pas d'autres marques sur l'échelle. Les sujets ne pouvaient pas voir les lignes avec leurs évaluations précédentes. Au cours de chacune des séquences de la partie 1, l'expérimentateur a maintenu un comportement quelque peu formel, agréable et calme, et était inexpressif même lors de la présentation de stimuli inhabituels, par exemple dégoûtants ou dangereux. Première expérience, la contamination par les cafards. Dans cette procédure, les effets du contact entre le jus et un cafard mort stérilisé ont été évalués. L'expérimentateur dit
« Je vais vous offrir des jus. J'aimerais que vous les goûtiez et que vous évaluiez à quel point vous aimeriez avoir une autre gorgée du même jus. Notez que cette ligne va de « détester extrêmement » à « aimer extrêmement ». Marquez simplement la ligne à l'endroit qui indique combien vous aimeriez boire un peu plus de l'échantillon que nous offrons.
L'expérimentateur démontre le marquage avec une barre oblique au crayon au milieu de la ligne.
Cela signifierait que vous étiez neutre à propos de cet élément. Après chaque évaluation, nous retournerons la feuille d'évaluation face cachée et passerons à la feuille suivante.
Deux verres jetables en plastique transparent de formes distinctes ont chacun été retirés de leurs nouveaux emballages en plastique et placés devant le sujet. De nouveaux cartons non ouverts d'une marque standard de jus de raisin et de pomme ont été ouverts devant le sujet et chacun ont été versés dans des verres séparés. Les cartons ont été placés derrière les verres appropriés de sorte que le sujet puisse les voir ainsi que leurs marques. L'expérimentateur dit alors
« Prenez une gorgée de ceci, le jus de pomme, et indiquez votre évaluation de la quantité que vous aimeriez en boire davantage sur cette feuille d'évaluation. Maintenant, pareil pour cet autre jus. Maintenant, s'il vous plaît, dites-moi lequel des deux jus vous préférez, c'est-à-dire celui que vous préféreriez boire un peu plus. Maintenant, prenez une autre gorgée du jus que vous préférez.
Après chaque déclaration de préférence dans ce choix et tout ce qui suit, le sujet a été invité à échantillonner l'élément préféré. Cela a été fait pour produire l'attente chez le sujet que les conséquences de sa préférence déclarée seraient réelles. Pour 30 sujets, le jus préféré a été choisi comme cible pour le cafard. Et pour 20 autres sujets, le cafard a été placé dans le jus non préféré. Un jus a été mis en contact avec un bougeoir de bougie d'anniversaire en plastique, le témoin, l'autre par un cafard séché et stérilisé d'environ 4 cm de long. L'expérimentatrice a placé devant elle un plateau recouvert de papier essuie-tout. Elle a ensuite retiré une partie de la couverture en papier du plateau, exposant le cafard dans un petit gobelet en plastique, a soulevé le cafard avec une paire de pinces posées à côté et a dit
« Maintenant, je vais prendre ce cafard mort stérilisé, c'est parfaitement sûr, et le déposer dans ce verre de jus. »
Le cafard a été déposé dans le verre et agité avec la pince pendant 5 secondes. On a ensuite demandé au sujet de compter les pattes du cafard pour s'assurer de son attention. Le cafard a ensuite été retiré avec une nouvelle cuillère en plastique provenant d'un nouveau récipient à cuillère et replacé dans son gobelet d'origine. La cuillère a été jetée. Cette séquence a été répétée avec le bougeoir en plastique dans l'autre jus en utilisant une pince différente. Les sujets ont ensuite répété les notes de chaque jus, indiqué leurs préférences et bu du jus préféré. Deuxième expérience, le conditionnement des cafards. Cette suite des manipulations précédentes a été conçue pour déterminer si un nouvel échantillon du type de jus contaminé par un cafard lors de l'essai précédent afficherait des propriétés négatives. Le cafard, le bougeoir et les deux verres de jus contaminés ont été retirés de la vue du sujet. Deux nouveaux verres en plastique, du même type que ceux utilisés initialement, ont été remplis de jus de pomme et de raisin, de sorte que la même forme et la même taille de verre contenaient le même jus qu'auparavant. Les sujets sont ensuite passés par l'évaluation standard et la mesure des préférences. Troisième expérience, le lancer de fléchettes. Rosin a mesuré la précision des sujets à lancer des fléchettes sur des photographies de personnes aimées ou non et de cibles neutres. Parce que l'image d'une personne est similaire à la personne réelle, selon la loi de similitude, les gens devraient être plus perturbés et donc moins précis en lançant des fléchettes sur une image d'une personne aimée que sur une cible neutre. Les sujets se tenaient sur une marque sur le sol. Un jeu de fléchettes était accroché au mur avec sa ligne médiane à peu près au niveau des épaules. La planche était à 182 cm du sujet. Des cibles sur des morceaux de papier blanc standard ont été épinglées au centre du tableau. Pour chaque cible, les sujets ont lancé 4 fléchettes 2 fois. Une fois les 4 premières fléchettes lancées, elles ont été retirées de la cible et les 4 autres ont été lancées. Les trous laissés dans le papier par les fléchettes ont été utilisés plus tard pour mesurer la précision. La première cible était un point noir d'environ 1 cm de diamètre au centre d'une feuille de papier autrement vierge. Les sujets ont eu 8 lancers d'entraînement sur cette cible. Elle a ensuite été retirée et une seconde cible identique a été utilisée. 5 cibles expérimentales ont suivi dans un ordre aléatoire qui variait d'un sujet à l'autre. Enfin, une autre cible de point noir a été présentée pour permettre la correction des améliorations dues à la pratique. Les 5 cibles expérimentales étaient des copies de haute qualité de vue de face des visages d'Adolf Hitler, de John Fitzgerald Kennedy et de l'expérimentatrice, chacune d'environ 20 cm de haut, et 2 cibles vierges supplémentaires avec des points noirs sur lesquels les sujets étaient invités à projeter des images des visages de la personne qu'ils aimaient et détestaient le plus au monde, de sorte que le point noir tombait entre les yeux. Pour les visages, les sujets devaient viser la tache entre les yeux, marquée par le point noir pour les visages imagés. Pour les blancs, les sujets devaient viser sur le point noir. En résumé, les sujets ont reçu une cible vierge d'entraînement, une cible vierge, 5 cibles expérimentales et une autre cible vierge. Les sujets ont lancé 8 fléchettes sur chacun. Quatrième expérience, l'étiquette de cyanure. Dans cette procédure, nous vérifions si l'étiquette cyanure de sodium confère sa qualité à la substance qu'elle étiquette par le principe de similitude. Les sujets retournèrent à leur place à table et se virent présenter deux flacons chimiques en verre brun de 50 ml, chacun rempli d'environ un quart d'une poudre blanche qui était en fait du saccharose, bon, du sucre quoi. L'un portait une étiquette dactylographiée qui disait « sucrose », sucre de table entre parenthèses. L'autre, une étiquette dactylographiée qui disait « cyanure de sodium » avec un autocollant « poison » imprimé en rouge en dessous. L'expérimentateur dit
« Ici, nous avons deux bouteilles contenant de la poudre. La poudre dans les deux bouteilles est du saccharose, c'est-à-dire du sucre de table. Ce sont des bouteilles neuves que nous venons d'acheter. Ils n'ont jamais rien eu d'autre que du sucre. Cette bouteille a une étiquette de saccharose que nous y mettons. C'est une toute nouvelle étiquette qui n'a jamais été sur aucune autre bouteille. Cette autre bouteille porte une toute nouvelle étiquette de cyanure de sodium. Cette étiquette n'a jamais été sur aucune autre bouteille et n'a même jamais été proche du cyanure. N'oubliez pas que le sucre est dans les deux bouteilles. »
L'expérimentateur a disposé deux gobelets en plastique de couleurs différentes, un devant chaque bouteille, et a versé de l'eau d'un pichet en verre dans les deux jusqu'à ce qu'il soit à moitié plein ou à moitié vide, c'est vous qui voyez. Maintenant, en utilisant de nouvelles cuillères en plastique séparées pour chaque bouteille, l'expérimentateur a mis une demi-cuillerée de poudre de la bouteille de sucre dans une tasse et l'a agitée. La cuillère a été jetée et la même chose a été faite avec le sucre dans la bouteille de cyanure avec une nouvelle cuillère. Le sujet a ensuite évalué sur la ligne de 200 mm combien il aimerait boire dans chacune des tasses et a indiqué une préférence entre les deux. On a ensuite demandé au sujet de prendre une gorgée d'eau sucrée dans la tasse préférée puis de rendre compte de son choix. Cinquième expérience, l'étiquette de cyanure, le retour du comeback. Rosin a pensé que l'évitement de la bouteille étiquetée au cyanure pourrait être motivé par des doutes sur le contenu réel de la bouteille, bien qu'il semble absurde que l'expérimentateur essaie d'empoisonner le sujet en offrant une bouteille étiquetée empoisonnée, mais enfin bon. Pour cette raison, dans la deuxième séquence, le sujet étiquette lui-même les bouteilles. Dans un premier temps, il n'a effectué ce deuxième test que pour les sujets qui indiquaient une préférence substantielle pour le contenu de la bouteille étiquetée en sucre. Les 20 derniers sujets, cependant, ont été dirigés sur cette procédure indépendamment de leurs résultats sur la première séquence. Les bouteilles et les verres précédemment utilisés ont été emportés et deux bouteilles vides similaires ont été sorties. Les couvercles ont été retirés et le sucre d'une boîte vendue localement a été versé dans chaque bouteille à un niveau d'environ un tiers plein. Le sujet a ensuite reçu deux étiquettes détachables sur un morceau de papier. L'un disait « sucrose, sucre de table », l'autre disait « cyanure de sodium ». Par erreur, cette étiquette de cyanure n'avait pas d'autocollant rouge « poison » apposé dessus. Eh ben oui, ils l'ont oublié. Les chercheurs ne sont pas sans faille non plus, c'est terrible. On a demandé au sujet de mettre une étiquette sur chaque bouteille de la manière qu'il voulait. Ensuite, la procédure utilisée pour l'expérience précédente a été répétée. Sixième expérience, les excréments de chien. Ah, vous l'attendiez mes petits cochons? Elle arrive! Les sujets se sont vus offrir un morceau de fondant au chocolat de haute qualité, de forme carrée, sur une assiette en carton. Ils ont mangé le morceau et noté sur la ligne standard leur désir de manger un autre morceau. Si les sujets ont dit qu'ils suivaient un régime, on leur a demandé d'ignorer ce fait en évaluant leur désir d'un autre morceau. Allez, faites-vous plaisir, c'est pour la science! Deux morceaux supplémentaires du même gâteau ont été présentés, chacun sur sa propre assiette en papier. Une pièce a été façonnée sous la forme d'un disque ou d'un muffin, et l'autre sous la forme d'un morceau de merde de chien étonnamment réaliste. Les pièces étaient à peu près de la même taille. L'expérimentateur a déclaré
« Voici deux autres morceaux du même gâteau. L'un est moulé en forme de disque ou de muffin, et l'autre en forme de caca de chien. »
Les sujets ont évalué leur désir de manger plus de chacun, le disque d'abord, puis les excréments de chien, ont indiqué celui qu'ils préféraient, puis ont été invités à prendre une bouchée du morceau préféré. Septième expérience, le vomi. Une procédure similaire a comparé un bouchon d'évier plat en caoutchouc d'environ 13 cm de diamètre et un morceau de caoutchouc imitation vomi d'environ la même taille acheté dans un magasin de farce et attrape. Cette procédure, contrairement à la procédure avec le gâteau, n'impliquait aucune exposition préalable à un morceau de caoutchouc vierge. L'expérimentateur dit
« Voici un bouchon d'évier en caoutchouc propre. Voici une imitation de vomi en caoutchouc vendue par les magasins de farce et attrape. Les deux sont propres. Évaluez à quel point vous aimeriez tenir le bouchon d'évier entre vos lèvres pendant 10 secondes. Maintenant, évaluez à quel point vous aimeriez tenir le vomi en caoutchouc entre vos lèvres pendant 10 secondes. Indiquez maintenant celle que vous préférez tenir entre vos lèvres. »
Passons maintenant à la partie questionnaire. Cette partie de l'étude consistait en un questionnaire de 53 questions portant principalement sur le dégoût et la contamination. Pour la plupart des questions, les sujets devaient utiliser une échelle allant de moins 100, expérience la plus désagréable que vous puissiez imaginer, à 0, neutre, à plus 100, expérience la plus agréable que vous puissiez imaginer. Ils ont été encouragés à sélectionner des valeurs intermédiaires. Contrairement à la partie 1, les notes étaient ici numériques plutôt que sur une ligne et les sujets pouvaient voir les notes précédentes sur le questionnaire. Les sujets ont répondu à une série de questions en plaçant le nombre approprié à côté de chaque question. Les questions 1 à 5 portaient sur la contamination interpersonnelle, positive et négative, et les questions 6 à 10 sur la contamination dans le dégoût. Les questions étaient les suivantes et je vous invite à y répondre de votre côté. Pour les éléments 1 à 3, on a demandé au sujet de penser à un chemisier ou une chemise d'un style qu'ils ou elles aimaient et de considérer que chacune des questions concernait une autre instance de ce même style de chemisier. Je rappelle qu'il s'agit de noter sur une échelle de moins 100 à 100 à quel point l'expérience est désagréable ou agréable. 1. Porter une chemise nettoyée d'un style que vous aimez et qui provient des étagères d'un magasin de vêtements d'occasion. 2. Porter une chemise nettoyée d'un style que vous aimez et qui appartenait à quelqu'un que vous n'aimez pas. 3. Porter une chemise nettoyée d'un style que vous aimez et qui appartenait à quelqu'un que vous aimez. 4. Utiliser une brosse à dents qui appartient à et a été utilisée par la personne qui vous attire le plus sexuellement. 5. Utiliser une nouvelle brosse à dents. 6. Se moucher avec un mouchoir propre et neuf. 7. Se moucher avec du papier toilette doux d'un tout nouveau rouleau. Pour les questions 8 à 10, on a demandé au sujet de considérer un bol de sa soupe préférée, puis d'évaluer, toujours sur cette échelle de moins 100 à 100. 8. Manger la soupe. 9. Manger un nouveau bol de soupe fraîche après avoir craché dedans. 10. Manger un nouveau bol de soupe fraîche versé dans un bol tout neuf. Les sujets ont également rempli un bref questionnaire de sensibilité au dégoût-contamination que Rosin avait utilisé dans des études précédentes et qui révèle de grandes différences individuelles dans cette population. Ce questionnaire contient 10 questions, toutes demandant des évaluations sur une échelle en 9 points, allant de « j'aime extrêmement » à « je n'aime pas extrêmement ». 8 des questions traitent de la contamination d'un bol de soupe préféré par une tapette à mouche usagée soigneusement lavée, une tapette à mouche neuve, un peigne usagé soigneusement lavé, un peigne neuf, une sauterelle après qu'elle a été retirée, une soupe dans le même bol que la sauterelle après que le bol a été lavé dans un lave-vaisselle, une feuille d'une plante d'intérieur et une nouvelle soupe du même bol que la feuille non lavée. Pour les deux derniers items, les sujets ont évalué un cookie préféré après qu'une bouchée ait été prise par un serveur dans un restaurant et après qu'un bout de celui-ci soit tombé sur une pelouse en pique-niquant. Quels en sont alors les résultats ? Deux lois de la magie sympathique ont été décrites par Fraser et Mauss au début de ce siècle pour expliquer les systèmes de croyances magiques dans les cultures traditionnelles. Dans cette étude, Rosin montre que ces lois correspondent bien à une variété de comportements dans la culture américaine en réponse à des objets dégoûtants, dangereux ou valorisés. La première loi, la contagion, stipule que, une fois en contact, toujours en contact. Autrement dit, il peut y avoir un transfert permanent de propriété d'un objet, généralement animé, à un autre par un bref contact. Par exemple, dans cette étude, il montre que les boissons qui ont brièvement été en contact avec un cafard mort stérilisé deviennent indésirables, ou que les chemises lavées précédemment portées par une personne détestée sont moins souhaitables que celles précédemment portées par une personne aimée ou neutre. La deuxième loi, la similarité, soutient que l'image est égale à l'objet, et que l'action entreprise sur un objet affecte des objets similaires. Dans cette étude, il démontre cette loi en montrant par exemple que les gens rejettent les aliments acceptables, par exemple le gâteau au chocolat, façonné sous une forme qui représente un objet dégoûtant, une crotte de chien. Ou que les gens sont moins précis pour lancer des fléchettes sur des images de visages de gens qu'ils aiment. Avec ces mesures et d'autres, ils ont trouvé beaucoup de preuves du fonctionnement des lois de la magie sympathique chez les 50 sujets qu'ils ont étudiés. Alors, est-ce que tout ceci était bien nécessaire ?
Je sais pas, mais c'était marrant.
On se doutait bien qu'on avait moins envie de manger un gâteau au chocolat s'il avait une forme de merde que s'il avait la forme d'un muffin. Mais bon, encore une fois, il y a bien une chocolaterie qui vend des chocolats en forme d'anus, donc bon, les humains sont imprévisibles. Bref, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner au flux et à me laisser 5 étoiles comme celle qui brille dans tes yeux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode ni éthique ni responsable.